la mafia new-yorkaise est une puissante organisation criminelle. Pour obtenir richesse et pouvoir, les membres forcent la main des directeurs d'entreprise et sont prêts à tuer quiconque se met en travers de leur route. John Gotti était l'un des plus dangereux membres de cette mafia. Il désirait avoir la mainmise sur New York. Le FBI devait l'arrêter. New York est le centre du crime organisé en Amérique. Les cinq familles qui constituent la mafia new-yorkaise ont corrompu les syndicats, dirigent des rackets d'extorsion et se sont infiltrés dans toutes les industries importantes de la ville en semant la terreur sur leur passage. Les querelles au sein de ces familles du crime naissent souvent de rivalités pour contrôler syndicats et industries. En général, leurs conflits se résolvent dans la violence. En 1970, la famille Gambino était l'une des plus violentes et des plus puissantes organisations criminelles aux États-Unis. À la fin de cette décennie, le FBI décida de mettre un terme au règne de terreur de la mafia. Le bureau de New York mit sur pied 5 escouades spéciales afin d'enquêter sur chaque famille et de trouver un moyen de les arrêter. L'agent Bruce Moore supervisait l'escouade qui enquêtait sur la famille Gambino.
Nous n'obtenions jamais les résultats escomptés dans notre lutte contre le crime organisé à New York. Nous avons donc constitué des équipes pour cibler chacune des familles et tenter de résoudre le problème. Notre escouade a été formée en 1980. Notre mission était de mettre la famille Gambino derrière les barreaux.
Les cibles principales de l'escouade de Moore étaient le chef de la famille Gambino, Paul Castellano et Neil Della Croce, le numéro 2. Castellano avait pris la tête de la famille en 1976 suite à la mort naturelle de Carlos Gambino, celui qui avait donné son nom à la famille. L'escouade enquêtait également sur les plus puissants capitaines de la famille comme John Gotti. Ces capitaines dirigent des équipes de soldats qui effectuent les activités criminelles journalières de la famille. Ainsi, les équipes de Castellano commettaient les crimes, mais jamais Castellano lui-même. L'arrêter était pratiquement impossible. Le FBI apprit que la hiérarchie de la famille Gambino était très bien protégée. L'armée était constituée de 50 capitaines qui contrôlaient plus de 300 hommes. C'était une organisation importante et impénétrable. La police ne pouvait y avoir accès que par le biais de caméras de surveillance. Heureusement, une série de nouvelles lois votées par le Congrès américain stipulait que celui qui avait ordonné l'acte criminel était aussi coupable que l'auteur du crime lui-même. Pour parvenir à faire accuser tous les membres de la famille Gambino, le FBI devait trouver le moyen de les enregistrer pendant qu'ils discutaient de leur entreprise criminelle. Mao et son escouade devaient patiemment et méthodiquement pénétrer au sein de la structure complexe de la famille Gambino. Plusieurs années seraient nécessaires pour accomplir cette mission. Castellano dirigeait la famille comme une grande entreprise. Dans la mafia, on l'avait surnommé le pape. Il s'était servi des syndicats pour renforcer son emprise au sein de diverses industries de New York. Lewis Schiliro est le chef du bureau du FBI de New York. C'est un expert en matière de crime organisé.
Une des plus importantes activités de la famille Gambino consistait à contrôler les syndicats de New York. Elle était très influente au sein du syndicat des débardeurs, des syndicats reliés à l'industrie de la construction et du transport. En contrôlant les syndicats, la famille Gambino avait la main mise sur l'industrie de la construction à New York. et une importante influence sur l'industrie du vêtement. Cela générait une importante source financière pour la famille.
Castellano gérait habilement ses intérêts.
Castellano s'était rendu compte qu'il devait régner sur son monde par la peur et la terreur. Il disposait donc d'une équipe d'hommes de main qui n'hésitait pas à tuer, dépecer des corps et d'autres horreurs du genre. Même si Castellano était reconnu comme un homme d'affaires, c'était un type coriace, au tempérament explosif, colérique, capable de tuer un individu au pied levé.
Il était pratiquement impossible de rejoindre Castellano directement. Sa résidence de Staten Island était une forteresse surveillée par des gardes armés. Il avait aussi fait installer un système d'alarme sophistiqué. Les agents n'avaient aucune preuve que Castellano dirigeait des affaires criminelles chez lui. Sans ces preuves, la cour n'autoriserait jamais le FBI à cacher des micros chez lui, ni à mettre sa ligne téléphonique sous écoute. Les agents allèrent donc dans la rue. Ils espéraient trouver une faille dans le système, un individu vulnérable à la surveillance électronique au sein de la famille. Ils apprirent par des informateurs qu'une équipe de la famille Gambino, dirigée par John Gotti, était active dans Queens et que son centre d'opération était le Bergin Club. Quelques informateurs du FBI étaient des proches d'Angelo Ruggerio, l'un des lieutenants de John Gotti. Dans le milieu, le gang de Gotti était reconnu pour être l'un des plus cruels de la famille Gambino. Les agents croyaient, quant à eux, avoir trouvé leur maillon faible.
Un de ses lieutenants s'appelait Angelo Ruggerio. C'est lui qui dirigeait les opérations journalières du gang de Gotti. Angelo était une cible intéressante parce que, primo, il était très actif, il était impliqué dans plusieurs activités criminelles, et deuxio, il était bavard. Il colportait des rumeurs et était incapable de garder un secret.
Mao mit rapidement sur pied des équipes pour identifier, noter et classer le nom de tous les individus qui entraient au Bergin Club. Le plus clair des revenus de Gotti et de son gang venait des détournements de fonds, du vol de voitures, de l'extorsion et du jeu. Selon des informateurs, Ruggerio discutait parfois des affaires de l'organisation en se servant du téléphone de sa fille. Il était convaincu que sa ligne ne serait jamais mise sous écoute. On n'obtient pas aisément l'autorisation de mettre une ligne privée sous écoute. Il faut arriver à convaincre un juge d'une cour fédérale que la personne visée est impliquée dans des activités criminelles et que l'écoute permettra d'obtenir des preuves. Si les conversations ne sont pas reliées au crime, on doit alors interrompre l'écoute. Dans les derniers mois de 1981, les déclarations de l'informateur suffirent à convaincre le juge que le téléphone de la fille de Ruggerio devait être mis sous écoute. L'escouade de Mao avait enfin trouvé un moyen de s'infiltrer au sein de la famille Gambino. L'écoute des conversations à partir du téléphone de la fille de Ruggerio fut un succès sur toute la ligne. Les conversations enregistrées par le FBI étaient très compromettantes. Mais les agents apprirent par la suite que Ruggerio rencontrait aussi des membres de la famille Gambino chez lui. Mao et son escouade avaient maintenant assez de preuves pour justifier l'installation de micros dans la maison du mafioso. Les agents entrèrent discrètement chez lui, dissimulèrent des micros dans la salle à manger et quittèrent les lieux ni vus ni connus. La mafia a toujours réussi à garder une longueur d'avance sur la police. Mais ce que Mao et son escouade ignoraient, c'était qu'un haut gradé de la police était payé par la famille Gambino. Bien que cette taupe ne connût pas tous les détails de l'opération, elle transmettait tout de même des informations aux membres de la famille relatives à l'enquête en cours et aux opérations de surveillance électronique. Angelo Ruggerio se mit à paniquer à l'idée qu'il y avait des micros dans sa maison. Il fouilla les lieux lui-même, mais ne trouva rien. Il n'était cependant pas rassuré et engagea un professionnel. Ruggerio demanda à ce dernier de vérifier sa ligne téléphonique. Les agents du FBI entendirent la conversation. La situation était délicate. Par prudence, on mit immédiatement l'appareil hors tension. Si la table d'écoute était découverte, des semaines de travail acharné seraient perdues. Il faudrait repartir à zéro. Il serait difficile de trouver un sujet aussi bavard que Ruggerio. Le professionnel arriva avec le matériel de détection électronique le plus sophistiqué qui soit. Après 2 jours de fouilles, il était prêt à faire à Ruggerio un rapport de ses découvertes. Deux jours après les fouilles dans la maison de Ruggerio, des agents arrêtèrent le professionnel qu'il avait engagé. Heureusement, son équipement ne fonctionnait pas, et il avait affirmé à Ruggerio qu'il n'y avait aucun micro dans sa maison. C'était un vrai coup de chance pour le FBI. Non seulement les micros n'avaient pas été découverts, mais Ruggerio se sentait à l'aise de parler en toute liberté dans sa maison. Et c'est ce qu'il fit, directement dans les micros du FBI. Lentement, le FBI gravissait les échelons au sein de la hiérarchie de la famille Gambino. Pour les agents, les conversations enregistrées étaient une mine d'or. Lors d'une rencontre entre Ruggerio et ses associés, les agents apprirent que ce dernier faisait le trafic d'héroïne avec Eugenie, le frère cadet de John Gotti. Pendant 6 mois, Angelo et Eugenie Gotti avaient distribué 50 kilos d'héroïne dans New York seulement. Tous les détails de ces transactions étaient enregistrés par le FBI. Il y avait alors une règle au sein de la mafia. On ne tolérait pas le trafic de drogue. Le châtiment était la mort sans autre forme de procès. Ruggerio n'avait pas obtenu l'autorisation du chef pour tremper ainsi dans le trafic de drogue. Et il connaissait les conséquences de cette dérogation. Le gouvernement était convaincu de pouvoir remporter la bataille. En septembre 1983, Ruggerio et Eugenie Gotti furent accusés d'avoir dirigé un important réseau de distribution d'héroïne et d'avoir fait entrave à la justice. Toutes les personnes inculpées faisaient partie du gang de John Gotti. Malgré cela, son nom n'avait jamais été prononcé dans les conversations enregistrées. Mais avec cette mise en accusation, Castellano apprendrait vite que les hommes de Gotti faisaient le trafic de drogue. Pour les agents du FBI, une autre information allait s'avérer très importante. Peu de temps avant d'être inculpé pour trafic d'héroïne, Ruggerio avait rencontré d'autres hommes de la famille. Il leur avait raconté que Gotti et lui-même se rendaient chez Paul Castellano tous les dimanches pour la rencontre hebdomadaire de la famille.
Angelo a raconté en détail ce qui se produisait chez Castellano. Nous savions tout ce qui se passait au sein de la famille grâce à lui. Le lendemain, d'autres hommes se rendaient chez lui et Angelo racontait à nouveau ce qui s'était produit. Nous savions donc les moindres détails de la famille Gambino grâce à Angelo Ruggerio, John Gotti et Paul Castellano.
Ces informations allaient permettre au FBI d'obtenir l'autorisation de placer des micros dans la maison du chef de la famille Gambino, Paul Castellano. Des agents parvinrent à pénétrer chez lui et à cacher des micros. Peu de temps après, ils commencèrent à enregistrer des conversations qui indiquaient sans équivoque que Paul Castellano dirigeait la famille Gambino, qu'il supervisait une multitude de raquettes qui coûtaient des millions de dollars chaque année aux citoyens américains. Castellano rencontrait ses capitaines pour discuter de leurs affaires. Le FBI identifia l'un des capitaines comme étant Sammy Gravano, surnommé The Bull, ou le taureau. Gravano obtenait ses revenus de l'industrie de la construction. Il était aussi devenu expert dans l'art de tuer. Les enquêteurs du FBI poursuivaient leur enquête à propos de puissants capitaines tels que John Gotti et Sammy Le Toro, mais ils concentraient leurs efforts sur leur chef. En 1985, 2 ans après l'inculpation de Ruggerio, Paul Castellano ainsi que plusieurs chefs de la mafia new-yorkaise furent accusés d'une dizaine de chefs d'accusation pour extorsion et complot. Castellano paya sa caution et continua à mener les affaires de la famille, même si son occupation principale consistait à trouver la meilleure façon de remporter son procès. De son côté, John Gotti était également aux prises avec la justice. Gotti et son mentor, Neil Della Croce, le numéro 2 de la famille Gambino, faisaient face à de nombreux chefs d'accusation pour extorsion. Della Croce et Gotti furent libérés suite au paiement de leur caution. Ainsi, ils purent à nouveau s'adonner à leurs activités criminelles. Quelques mois plus tard, Della Croce mourut des suites d'un cancer. Le FBI avait dissimulé des micros dans sa chambre à coucher. Gotti et Ruggerio lui rendaient visite. Pendant ce temps, le FBI écoutait leurs conversations. Au cours de ces conversations enregistrées, Gotti parlait de sa crainte que Ruggerio et lui soient tués par Castellano à cause du trafic de drogue et du fait que les enregistrements avaient conduit le FBI jusqu'à la maison de Castellano. Della Croce promit à Gotti qu'il ferait tout en son pouvoir pour le protéger. La loyauté de Della Croce envers Gotti était source de friction au sein de la famille. Il faisait attendre le chef, et c'est à contre-cœur qu'il accepta de lui remettre les enregistrements. La famille Gambino était scindée en deux. Puis, au début de décembre 1985, Neil Della Croce, le numéro 2 de la famille Gambino, mourut chez lui des suites d'un cancer. Le 16 décembre, 2 semaines après sa mort, Castellano et son nouveau second, Tommy Bilotti, se garèrent devant un restaurant à la mode du centre-ville de Manhattan pour y rencontrer des associés. Au moment où ils sortaient de la voiture, des hommes s'approchèrent d'eux et firent feu. Castellano et Bilotti n'eurent pas le temps de savoir qui s'attaquait à eux. Ils moururent sur le coup. Dans la mafia, quand un chef de famille est assassiné, d'habitude c'est la personne qui monte d'un degré dans la hiérarchie et qui devient le nouveau leader de la famille qui est responsable de l'assassinat. C'est une tradition dans la mafia de rendre hommage à un nouveau chef et de lui montrer son respect. 2 semaines après le meurtre, des agents virent un défilé d'importants membres de la famille Gambino entrer dans le Bergin Club. C'était la rencontre avec John Gotti. Les agents examinèrent son passé criminel ainsi que son ascension au sommet de la mafia. John Gotti s'était associé à la famille Gambino vers 1970. En 1973, il avait impressionné le chef en tuant l'homme qui avait enlevé et assassiné un parent de Carlos Gambino. Gotti avait été emprisonné 2 ans avant d'obtenir sa libération conditionnelle. Il avait rapidement acquis le respect de la famille. Il avait ensuite rapporté beaucoup d'argent aux Gambino par le biais de prêts à taux usuraires et de jeux d'argent. Il était en quelque sorte devenu un héros dans son quartier. Lors de la fête nationale américaine, le 4 juillet, il organisait de grandes fêtes et des feux d'artifice. L'agent spécial George Gabriel fut assigné à l'escouade de Mao en 1985. Il devint rapidement un expert sur John Gotti.
S'il croisait de vieilles dames dans le besoin et qu'il avait des billets dans ses poches, il leur en donnait. C'était presque le Robin des Bois de son quartier. Mais comment gagnait-il cet argent? En tuant, en volant, en manipulant, en subordonnant les gens ou en contrôlant des raquettes qu'il n'avait pas le droit de contrôler? Et quand il ne vous aimait pas, quand vous tombiez sur son mauvais côté, c'en était fini de vous. Il était sans merci, il vous tuait.
Gauthier était le chef, mais il avait encore des démêlés avec la justice. 6 mois après avoir pris la tête de la famille Gambino, il fut mis en détention en attendant son procès. La prison ne freina pas ses activités. À partir de sa cellule, Gotti commanda un meurtre. L'homme visé était Robert Di Bernardo, un des associés très proches de Gotti. L'assassinat de Di Bernardo fut organisé par Angelo Ruggerio, qui attendait toujours son procès pour trafic de drogue.
Angelo était l'un des rares hommes que voyait Gotti en prison. Il lui a dit que Robert Di Bernardo avait eu des propos subversifs à son égard. Il disait que John n'avait pas la stature pour diriger la famille et qu'on devrait trouver un autre chef. Angelo rapportait ces propos parce qu'il devait lui-même beaucoup d'argent à Robert Di Bernardo et qu'il espérait ne pas le rembourser.
Ruggerio transmit à Sammy Gravano le Toro l'ordre de Gotti d'organiser l'assassinat. Le 5 juin 1986, Di Bernardo se rendit à la réunion organisée par Gravano dans son bureau. Tous ceux qui étaient présents le saluèrent comme d'habitude. Di Bernardo n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. On lui tira une balle dans la nuque. On ne retrouva jamais son corps. En août 1986, 2 mois après l'assassinat de Di Bernardo, commença le procès de Gotti. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait été inculpé. Mais Gotti n'était pas la cible principale de cette accusation. On visait d'abord Neil Della Croce, le second de la famille. Les indices contre Gotti étaient minces. Cependant, pour l'ambitieux procureur, c'était l'occasion rêvée de neutraliser ce chef de la mafia. Le procès n'impliquait pas directement l'escouade assignée à cette famille, mais Mao demanda à George Gabriel d'assister au procès. Au cours d'une pause, Gabriel se retrouva face à face avec son adversaire.
Je lui ai dit que je m'appelais George Gabriel et que je travaillais sur l'escouade de Bruce Mao. Il m'a dit « Dites-lui que je serai chez moi dans 6 semaines ». J'ai dit « D'accord, je vais lui transmettre votre message ». J'ai ensuite ajouté « Si vous gagnez, je serai là pour vous féliciter ». Il m'a répondu « Bien, j'espère vous revoir ».
Le 13 mars 1987, Gotti fut acquitté de tous les chefs d'accusation. George Gabriel remplit sa promesse. Après le verdict, il se rendit au Bergen Club dans Queens, où Gotti avait organisé une fête pour célébrer son acquittement. Il félicita Gotti. Pour la presse, le public et ses 2 procureurs, Gotti semblait inattaquable. Une fois sorti de prison, John Gotti retrouva son statut de célébrité. On le voyait en ville dans des restaurants raffinés et des boîtes de nuit à la mode. Il portait toujours des vêtements à la coupe irréprochable. On l'avait déjà surnommé le parrain fringant. Maintenant, on l'appelait le parrain Teflon, parce que les accusations semblaient lui glisser sur le dos. Les médias le représentèrent comme étant un opprimé qui avait réussi à vaincre l'État. Mais maintenant, c'était au tour de Mao d'accumuler des preuves contre Gotti.
Je n'aime pas qu'un tel homme soit glorifié. Pour moi, c'est un criminel, un terroriste. Il ne croit pas à notre système, il ne croit pas au vote, à l'Église, ni à la famille. C'est un meurtrier. Comment peut-on croire qu'un tel homme est un modèle pour nos enfants? Cela me met très en colère.
Pour accumuler les preuves contre Gotti, Mao devait d'abord trouver de quel endroit il dirigeait ses affaires. Les micros cachés au Bergen Club ne donnaient plus rien. Depuis que Gotti dirigeait la famille Gambino, il n'y passait plus autant de temps. L'escouade demanda aux informateurs à quel endroit se tenaient les réunions importantes du nouveau parrain. Il fallut 8 mois pour le savoir. Au début de 1988, ils trouvèrent enfin le nouveau quartier général de Gotti. Ce dernier avait fait du Rave Night Social Club de la Petite Italie son quartier général. C'était un geste symbolique, puisque le Rave Night était l'ancien club de son mentor, Neil Della Croce. C'est à cet endroit que Gotti rencontrait ses capitaines et dirigeait les affaires de la famille. Des agents louèrent un appartement au bout de la même rue que le club. On installa une caméra ultra-puissante pour filmer tous ceux qui y entraient. En février 1988, le FBI obtint l'autorisation de la cour de dissimuler des micros dans le Rave Night. Les quelques 30 ou 40 personnes en permanence dans la pièce rendaient cependant l'écoute des conversations difficiles. De plus, le propriétaire faisait jouer des cassettes avec un bruit de fond, ce qui rendait presque impossible le déchiffrage des conversations. Pour pouvoir accuser Gotti d'être à la tête de la famille Gambino, les agents du FBI devaient obtenir un enregistrement où on l'entendrait donner ses consignes. Jusqu'à présent, les micros dissimulés au Rave Night ne les aidaient pas beaucoup. Gotti craignait d'être écouté par le FBI et il avait trouvé des façons intelligentes de déjouer les agents.
John Gotti était bien connu pour tenir des réunions au cours de promenades. Lorsqu'il devait discuter de choses secrètes avec un individu, et les affaires de la mafia ne concernent pas toujours tous les membres de la mafia, comme lorsqu'un capitaine devait lui parler, John Gotti allait dehors avec cette personne. Ainsi, il se prémunissait contre d'éventuels micros.
Peu importe ce que les agents faisaient, le chef semblait toujours devancer leurs plans. Il alla même jusqu'à se moquer d'eux.
J'étais assis dans une camionnette devant le Rave Night et lui arrivait souvent de cogner sur toutes les camionnettes dans la rue en chuchotant « Nous savons que vous êtes là ». Chaque fois, nous nous faisions avoir. On faisait de notre mieux, mais ce sont des choses qui arrivent et on doit composer avec ça.
John Gotti commanda un nouveau meurtre à l'insu du FBI. Cette fois-ci, il s'agissait de Louis Melito, un soldat de Gambino dont la loyauté envers Gotti était suspecte. Gotti croyait que Melito était une menace pour l'administration de la famille parce qu'il avait été un associé très proche de Paul Castellano et de Tommy Bilotti. Sammy Le Toro accepta d'organiser le meurtre. Lui non plus n'avait pas besoin de Melito. Il craignait que ce dernier déploie ses tentacules dans l'industrie de la construction qu'il contrôlait. Melito fut assassiné sous la supervision de Gravano. Son corps fut enlevé et ne fut jamais retrouvé. Le FBI apprit la nouvelle par le biais d'informateurs qui avaient entendu la rumeur. Une fois encore, on ne disposait pas de preuves suffisantes pour arrêter Gotti.
C'était très frustrant parce que nous étions près du but. Nous avions filmé ces hommes. On pouvait les voir aller et venir. Nous étions si près et à la fois si loin de notre but.
Le FBI fit enlever les micros, mais l'escouade qui enquêtait sur la famille Gambino refusait d'abandonner. Ils trouvèrent un nouvel informateur qui leur apprit qu'il arrivait à Gotti d'avoir des conversations très importantes avec l'un de ses hommes au Rave Night. Puis, abruptement, il quittait la table et se rendait dans le couloir à l'arrière du club. En général, leur entretien durait entre 10 et 15 minutes. Ces réunions étaient à coup sûr incriminantes. Et comme le couloir était silencieux, il serait plus facile d'y déchiffrer la conversation. L'escouade prit rapidement avantage de cette information. En octobre 1989, des agents placèrent des micros dans le couloir en question. Ils enregistrèrent les rencontres de Gotti avec plusieurs des membres de la famille Gambino. Ce micro leur permit de recueillir des preuves contre Gotti, mais pas assez pour le faire emprisonner à vie. Il fallait que Gotti rencontre ces hommes ailleurs dans l'immeuble. Dans un endroit où il se sentait en sécurité pour parler. À l'automne 1989, des informateurs apprirent aux agents que Gotti se rendait dans un autre endroit dans l'immeuble. Nettie Cirelli était veuve. Son mari, Michael, avait été concierge au Rev Knight. Après son décès, elle avait conservé l'appartement où il vivait. Il se trouvait 2 étages au-dessus du club. On croyait que Gotti se servait parfois de cet appartement pour discuter d'affaires importantes. Pénétrer dans cet appartement sans être repéré risquait d'être une tâche délicate. Elle ne sortait que rarement. Pendant que l'escouade d'opérations spéciales tentait de trouver un moyen, des agents apprirent que Nettie Cirelli devait quitter la ville lors du congé de l'Action de grâce. C'était l'occasion d'agir. Les agents se mirent au travail. Ils s'introduisirent dans l'appartement au cours de la nuit et dissimulèrent des micros. Le 30 novembre 1989, on entendait clairement la première conversation enregistrée dans l'appartement de Nettie Cirelli. Les mafiosi parlaient en toute confiance. Ils n'avaient recours à aucun code, ni au langage des signes comme ils le faisaient souvent lorsqu'ils craignaient d'être enregistrés. Pendant quelques semaines, les agents écoutèrent les conversations qui avaient lieu dans l'appartement. Le 12 décembre 1989, ils obtinrent enfin ce qu'ils espéraient. Gotti et son second, Frank Locascio, se rencontrèrent ce jour-là à l'appartement. Au cours d'une conversation plutôt décousue, Gotti divulgua des informations qu'il regretterait amèrement plus tard. Il expliquait le fonctionnement du racket des syndicats et d'autres crimes. Il disait également vouloir faire assassiner plusieurs individus. Les agents qui écoutaient Gotti au cours de cette soirée n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais le plus troublant fut ce que Gotti déclara à propos de Sammy Gravano. Pendant plus d'une heure, Gotti s'acharna sur le sort de Sammy. Il disait que ce dernier était de plus en plus rapace, qu'il touchait des commissions trop élevées du racket de la construction. Il en menait trop large et ne respectait pas l'autorité de Gotti. Le chef déclara également que les 2 meurtres qu'il avait commandés avaient en fait été commis parce que Sammy protégeait ses propres intérêts. Selon Gotti, Sammy l'avait contraint à commander les assassinats de Di Bernardo et de Milito.
C'était une conversation très importante. Au cours de cette longue diatribe, John avouait ses 2 meurtres. Il affirmait qu'il avait commandé les assassinats de Robert Di Bernardo et de Louis Milito. Selon lui, c'était Gravano qui l'avait poussé à les faire tuer. Il a également parlé de Louis Di Bono, un autre associé de Sammy qu'il comptait faire tuer. John a ensuite expliqué comment il contrôlait les divers syndicats et l'argent qu'il touchait de ses activités illégales. Pour nous, c'était aussi révélateur que l'arme du crime. C'était l'enregistrement le plus incriminant dont nous disposions.
Après avoir enregistré quelques autres conversations, le micro de l'appartement fut mis hors service en mai 1990. Pour l'escouade de Mao, toutes ces années de patience avaient finalement porté fruit. Ils disposaient maintenant de preuves solides et elles provenaient de John Gotti lui-même. Au cours des mois suivants, les agents préparèrent l'accusation. L'enquête entourant la hiérarchie de la famille Gambino qui avait débuté 10 ans plus tôt allait bientôt être terminée. Le 12 décembre, soit exactement 1 an après la conversation compromettante de Gotti, l'agent spécial George Gabriel et 2 de ses collègues se rendirent au Ravenite Social Club. Leur mission, procéder aux arrestations de John Gotti, de Sammy Gravano et de Frank Locascio. En route vers le poste de police, Gotti demanda à l'agent Gabriel quels seraient les chefs d'accusation portés contre lui. Gabriel les lui mentionna un par un. Il lui parla des enregistrements, et en particulier ceux du couloir et de l'appartement. Gotti ne posa aucune question. Lors de l'audience préliminaire, quelques jours plus tard, les trois accusés entendirent des extraits des enregistrements du FBI, notamment un extrait de la conversation du 12 décembre. Sammy Gravano put y entendre Gotti qui pestait contre lui.
Pour la première fois de sa vie, Gotti était mal à l'aise. Il virait au bleu, au rose, et semblait vouloir se cacher sous la table. Sammy, de son côté, devenait de plus en plus rouge. On pouvait voir qu'il était prêt à exploser comme un pétard à mèche. Et l'enregistrement a fait comprendre à Gravano que Gotti et lui ne pourraient pas coexister si jamais il sortait de prison.
Après avoir entendu l'enregistrement, Gravano vit bien que la stratégie de défense de Gotti serait de lui mettre les meurtres sur le dos. En somme, il servirait de bouc émissaire. Le 8 novembre 1991, Gravano accepta de coopérer avec le FBI et de révéler tout ce qu'il savait à propos de la famille Gambino. Il permit aux agents d'obtenir toutes les informations qui leur manquaient, comme la façon dont Gotti et lui avaient commis les crimes au nom de la famille Gambino et comment ils devançaient toujours la police. Gabriel comprenait maintenant pourquoi Gotti avait échappé aux accusations.
Il prétendait devant tout le monde qu'il avait eu le haut du pavé sur le gouvernement, qu'on n'avait pu établir aucune preuve contre lui. La vérité, c'est qu'il avait acheté le jury. Sammy Gravano avait versé 60 000 dollars à un juré pour faire changer le verdict. C'est comme ça qu'il a remporté sa cause.
Maintenant, il fallait découvrir comment il avait orchestré l'assassinat de Castellano. Grâce à Gravano, le FBI a appris enfin la vérité. Tout avait commencé en 1983, lorsque Angelo Ruggerio et Eugenie Gotti avaient été accusés de trafic de drogue. L'opération n'était plus un secret pour leur chef. Castellano avait également appris que l'accusation se fondait sur un enregistrement de Ruggerio. Il était furieux et voulait entendre cet enregistrement. C'est alors que les événements se précipitèrent.
En 1984, les enregistrements ont enfin été remis à la défense. Pour la première fois, les accusés et les avocats de la défense avaient ces enregistrements où Angelo racontait en détail son trafic d'héroïne et l'utilisation de la résidence de Castellano. Castellano, qui était alors le chef, a demandé à Ruggerio de lui remettre ces enregistrements.
Della Croce était en quelque sorte le médiateur entre Gotti et Castellano. Lorsqu'il mourut, il n'existait plus aucune barrière. Quelques jours après la mort de Della Croce, Castellano convoqua ses capitaines à une réunion. Il leur annonça qu'il avait choisi Tommy Bilotti pour succéder à Della Croce. Castellano déclara également que le gang de Gotti allait être dissous et que ses hommes seraient intégrés à d'autres gangs. Il avait finalement écouté les enregistrements. Ruggerio y donnait des informations si précieuses qu'il ne resterait sans doute plus beaucoup d'hommes dans le gang de Gotti. Ce dernier était furieux. Il savait qu'il serait la prochaine cible de Castellano. Gotti commença alors à planifier un renversement. Il demanda à Ruggerio d'approcher trois des quatre autres familles de la mafia. Il désirait savoir si ces derniers accepteraient de fermer les yeux si jamais il arrivait quelque chose à Castellano. Tous répondirent qu'ils n'interviendraient pas. Gotti choisit ensuite quelques soldats pour planifier l'assassinat. Un des membres de la famille Gambino en particulier devait jouer un rôle très important. Gotti envoya Ruggerio demander à Sammy Gravano s'il acceptait de participer au meurtre de Castellano. Gravano accepta. Il avait lui-même constaté qu'il y avait des dissensions au sein de l'organisation. Il savait également que John Gotti était assez puissant pour organiser et réussir le meurtre du chef. De plus, les autres familles ayant accepté de ne pas intervenir, Sammy savait qu'il était dans son intérêt d'appuyer Gotti. Ce dernier mit sur pied une équipe de 5 hommes pour organiser l'assassinat de Castellano. Ces membres de la famille Gambino se faisaient appeler les 5 coups de poing. Préparer l'assassinat d'un chef d'une des plus grandes familles de la mafia était complexe. Les 5 coups de poing devaient d'abord commettre le meurtre lorsque Castellano serait loin de ses membres les plus fidèles, mais aussi à un endroit qui échappait à la surveillance du FBI. L'occasion se présenta à la mi-décembre 1985. Castellano avait demandé à 5 de ses capitaines de le rencontrer dans un restaurant du centre-ville de Manhattan. Il ignorait que l'un d'entre eux était engagé par Gotti. La veille de l'assassinat, les membres des 5 coups de poing se rencontrèrent dans un bureau de l'industrie de la construction utilisé par Gravano. Quatre tireurs d'élite avaient été engagés, deux pour Castellano et deux autres pour son chauffeur et le second Tommy Bilotti. Les meurtres avaient été planifiés avec soin. Le 16 décembre, l'équipe se rencontra dans un parc à environ 2 km du restaurant. Les tireurs devaient se regrouper deux par deux devant le restaurant. Angelo Ruggerio faisait partie des quatre hommes en réserve, chargés de bloquer toutes les issues. Gotti et Gravano assisteraient à la scène à partir de leur véhicule garé au bout de la rue. Ils étaient prêts à tirer si cela s'avérait nécessaire. Rien ne devait contrecarrer la réussite du plan. Castellano et Bilotti devaient mourir. C'était presque le soir lorsque Gotti et Gravano prirent la route en direction du restaurant. Les tueurs se mirent en position. Gotti et Gravano trouvèrent un endroit pour observer la scène. Il y avait une place de stationnement à l'intersection de la rue. Ils attendirent dans l'auto. Castellano arriva en retard. Il était peut-être au courant du complot. Pendant qu'il parlait avec Gotti, Gravano regarda soudain vers la gauche et fut pris de panique. C'était une Lincoln noire. Bilotti était derrière le volant et Castellano était assis à ses côtés. Pendant un moment, Gravano et Gotti crurent qu'ils avaient été repérés. Mais le feu vira au vert et la voiture poursuivit sa route. Gravano annonça l'arrivée du parrain sur sa radio. C'était le moment de passer à l'action. Alors que Bilotti garait son auto, les tireurs s'avancèrent. Castellano et Tommy Bilotti s'affaissèrent à côté de la voiture. Ils avaient reçu 6 projectiles chacun. Les détails fournis par Gravano à propos des meurtres mettaient fin aux spéculations de la police. Conformément au marché qu'il avait conclu, Gravano témoigna contre son ancien chef. Il admit avoir joué un rôle dans 19 meurtres reliés à la mafia. Il écopa de 5 ans de prison. Il entra volontairement dans un programme de protection des témoins. Le 2 avril 1991, John Gotti fut jugé coupable de 5 meurtres, dont celui de Paul Castellano et de Tommy Bilotti. Il fut également trouvé coupable d'avoir entravé le cours de la justice et d'avoir participé à des rackets. En particulier, il fut accusé de corruption d'un policier et d'un juré, de crimes reliés au jeu, au pari de course de chevaux, de défaut de paiement de ses impôts et de tentative de meurtre. John Gotti devra finir ses jours en prison. Il n'a plus sa cour d'admirateur, ses complets à la coupe irréprochable, ni son style flamboyant. Bien d'autres membres de la mafia ont pris le même chemin que John Gotti ces dernières années. La décision du FBI d'en finir avec le crime organisé continue d'avoir des effets bénéfiques. Lewis Chiliro, le directeur du bureau de New York, est optimiste.
Aujourd'hui, les gens de New York peuvent décider de construire un immeuble sans que la Cosa Nostra ne s'en mêle. Les propriétaires de restaurants de la ville peuvent mettre leurs ordures au chemin sans se faire rançonner s'ils n'ont pas choisi la bonne entreprise de ramassage d'ordures. Les vendeurs de poissons de Fulton Market peuvent se faire une honnête compétition sans devoir payer une redevance à la mafia new-yorkaise. Nous avons fait beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup à faire, mais je crois que la population de New York commence à sentir les résultats.
Des guerres se jouent encore tous les jours dans les rues de la Grosse Pomme. Les familles de la mafia continuent à extorquer et à tuer. Mais grâce aux efforts du FBI, en arrêtant des criminels comme John Gotti, l'étau de la mafia se desserre peu à peu.